Bonsoir, le vendredi, bonsoir, le dernier jour de Par les temps qui courent pour la semaine, tous les soirs, une heure avec un ou une artiste, ce soir, Fabrizio Dori.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Fabrizio Dori.
Eustis, le satyre, se croit le dernier dieu survécu. Il va parmi les humains, leur raconte des histoires, fume des joints, boit du vin, aime des femmes. La vie oisive, le vagabondage et l'ennui, parfois. Mais on n'échappe pas exactement à sa nature et le voilà missionné par la reine des spectres d'aller à la rencontre de son monde perdu. Nous, c'est à la rencontre d'un monde nourri par la mythologie, la peinture de Gustav Klimt, d'Egon Schiele, les ornementations Art Nouveau, les images de cartomancie, la peinture de Van Gogh, les films de zombies que nous allons et on ne voit certainement pas tout du premier regard, Fabrizio Dori. Si votre dernière bande dessinée parue aux éditions Sarbacane est une longue route qui mène à la Maison des Enfers, c'est une route luminescente et presque joyeuse. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir à tout le monde.
Le Dieu Vagabond est donc en librairie et vous, vous serez au Salon du Livre de Caen pendant tout ce week-end. On va commencer par une chambre à coucher. J'avais des amis haut placés dans le temps très cher. Une époque bénie. Ne t'arrête pas, raconte. Attends, j'ai besoin d'un peu de carburant. Alors, comme je te disais, je faisais partie du Thiasos, la cour errante de Dionysos, le dieu de l'ivresse. Moi et mes camarades l'accompagnons dans ses voyages à travers le monde. Ensemble, nous conquérions des régions entières en répandant le culte de la vigne. Mais au fond, notre spécialité, c'était la fête. Pan était de la partie, lui aussi. En ce temps-là, être une divinité, c'était très amusant. Tu veux dire que tu es un dieu, Eustis ? Je suis très précisément un satyre. Une divinité inférieure, certes, mais c'est déjà pas mal, tu sais. J'avais deux belles cornes et deux adorables oreilles pointues. Tu devais être très mignon. On peut le dire. Le plus remarquable toutefois, c'était lui, le chef, Dionysos. Quand il te regardait dans les yeux, l'effet qu'il te faisait. Imagine-toi fondre littéralement dans l'univers, être en parfaite osmose avec lui. Imagine jouir d'une félicité absolue. Crois-moi, c'était mieux que n'importe quel vin, que n'importe quelle drogue. C'était mieux que de faire l'amour, soit dit, sans t'offenser. C'est une belle histoire, peu crédible. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Rien, je te racontais juste un peu ma vie, c'est tout. Une minute, papillon. C'était pas notre deal. Moi, je t'ai donné ce que tu voulais. Oui, mais tu ne m'as pas dit ce dont tu avais besoin, Aline. Bah, je ne sais pas ce que je cherche. Un miracle, je crois. J'ai besoin d'un miracle. Alors, je crois que j'ai l'histoire qu'il te faut. Je vais te raconter le royaume des morts. C'est presque comme ça que tout commence dans votre bande dessinée, Fabrizio Dori. Avant cela, on est dans un grand champ de tournesol. Deux groupes comme ça se font face. Un groupe de femmes, certainement des prostituées, attendent, s'ennuient. Et un groupe de jeunes hommes est un peu excité à l'idée d'aller rencontrer une fameuse personne qui raconte des histoires et dont les histoires ont un pouvoir particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux personnes qui sont comme ça, on imagine, dans la nuit, après avoir fait l'amour, à se raconter un peu leur vie, Fabrizio Dori, Aline et Eustis?
Ça c'était le décor, c'était mon idée, c'était celle-là de traiter des personnages qui étaient au bord, aux marges. Et donc ça se réalise aussi dans la mise en scène parce qu'ils sont au dehors de la cité. Il y a la cité, on la voit toujours loin. On voit des bâtiments en construction, on voit des grues. Et la cité, c'est un peu le lieu où tout peut être. C'est le lieu de la vie humaine. Et tous les personnages que je voulais raconter, c'était des personnages aux marges de cette vie. Donc on a les prostituées. On a Eustis, qui est une SDF, et il est aussi un dieu déchu, seul au monde. Et donc c'était un peu cette idée de marginalité que je voulais aussi raconter.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette idée de la marge? Qu'est-ce qu'ils ont en particulier, ces personnages qui ne sont pas au centre, qui ne sont pas dans la ville, qui ne sont pas où ça se construit, mais qui sont justement dans les interstices? Ce Eustis, ce dieu déchu dont on va parler tout à l'heure, il vit dans une tente, c'est un peu mystérieux. Pour l'atteindre, on ne sait pas exactement. Puis on ne sait pas à quoi il carbure exactement. Est-ce qu'il prend de la drogue? Est-ce qu'il boit des potions particulières? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces personnages-là?
Ouais, moi j'aime l'idée des marges parce que c'est dans les marges il y a tous ceux qui ils trouvent pas sa place dans le centre, disons. Et ça c'est il a aussi une valeur, c'est un peu comme le conscient et l'inconscient dans l'âme de l'homme. Donc tous ceux que c'est pas conscient, on va le retrouver dans l'inconscient. Et dans l'inconscient, on peut trouver beaucoup de choses. On peut trouver des trésors, on peut trouver de l'énergie, aussi des peurs. Ça dépend, voilà. Mais j'aime cette polarité, voilà.
Et vous diriez que votre façon de travailler, votre art de la bande dessinée, ou votre art tout court depuis quelques années, il se situe aussi de ce côté-là. C'est aussi sa matière première, la marginalité, l'inconscient, les rêves, les pulsions, les visions.
Oui, sûrement ça c'est important de mon travail. Dans le même temps, moi je cherche toujours l'équilibre. L'équilibre, c'est un concept très grec. Et même en cette bande dessinée, j'ai cherché beaucoup l'équilibre parce que si on s'abandonne à ses propres visions, à son propre inconscient, on va faire un travail incompréhensible pour les autres. Ça va être quelque chose de la pure énergie, voilà, de la pure du chaos. Alors il faut trouver aussi la façon de transformer ça en quelque chose qui peut être intelligible pour les autres. Donc c'est l'équilibre entre le conscient et l'inconscient, entre le couleur et le dessin, parce que le dessin c'est très intellectuel comme acte, parce que c'est capturer la réalité avec une ligne. Et ça signifie fermer des formes. Voilà. Donc c'est là un peu la façon rationnelle de penser qu'il faut aussi dans le dessin. Et le couleur, bah ça c'est Dionysos, c'est le chaos. Si on s'abandonne aux couleurs, le couleur il mange la forme et la détruit. Donc là aussi je cherche un équilibre entre une forme claire et une couleur très très puissante.
Parfois, vous étiez tenté justement de laisser l'un ou l'autre prendre le dessus, par exemple d'avoir une énergie beaucoup plus débordante, d'être beaucoup plus du côté de l'informel et de la couleur, de quitter l'intelligibilité. Est-ce que ça, c'est tentant de temps en temps, Fabrizio Dori?
Oui, et des fois c'est même fonctionnel
à l'expérimenter.
Oui.
Il faut essayer en fait.
Oui. Ça peut être aussi fonctionnel même à la narration. Peut-être il y a des scènes, il y a des moments. Il y a un petit moment, il y a deux pages où Eustis et le professeur ils sont saouls. Donc on voit à travers les yeux des deux personnages, on voit un monde assez,
déformé, vibrant. Quoi.
Voilà. Et là, le dessin il est un peu abandonné aussi quand il y a la tempête, juste au commencement de leur aventure, de leur petite odyssée dans les banlieues. Là aussi, j'ai abandonné un peu le dessin pour laisser la couleur s'exprimer. Voilà. Des fois, ça, laisser aller, voilà, la couleur, ça peut être utile en fonction de la narration. Voilà.
Puisqu'on parle de vision et que finalement cette bande dessinée est pleine de visions, hein, que ce soit celle de Eustis et du professeur qui l'accompagne dans cette grande aventure, ou que ce soit nos propres visions à nous, lectrices ou lecteurs qui entrons dans ce monde-là, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui fut la première pour vous? Une sorte d'image comme ça, initiale pour cette bande dessinée?
Oui. C'est exactement comme ça que... elle est née cette bande dessinée, et même un peu tout, mes bandes dessinées, la première chose c'est une image dans la tête. Dans ce cas-là, c'était les 3-4 planches où on voit Eustis qui court dans une nature brûlante, on voit un satyre qui court dans cette nature brûlante, une nuit qu'elle est orange, qu'elle est... très fort, très, très puissant, voilà. Et moi, j'ai dessiné cette séquence que j'avais dans la tête, mais je savais rien de l'histoire, voilà. Mais j'ai commencé par dessiner ces trois planches parce que j'avais cette image très forte dans la tête, voilà. Et une fois que je l'ai vue réaliser, j'ai dit, bon, ça, c'est le cœur de l'histoire, une histoire que je connais pas. Et il faut aller la chercher, mais ça c'est le cœur. Et après, il m'a fallu un an pour arriver à trouver cette histoire, voilà, pour la construire.
C'est quoi comme sensation, Fabrizio Dori, d'avoir cette image puissante en tête et puis de prendre le temps qu'il faut pour la coucher sur le papier et de la voir apparaître? Ça vous fait quoi?
Comment dire, c'est bien. c'est quelque chose que c'est comme qu'on entend et qu'il faut ramener. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut prendre, il faut ramener. Et quand on arrive à le faire, on est bien. Voilà. Mais on a, enfin moi, pour mon travail, j'ai pas le contrôle. Au commencement, j'ai pas le contrôle, j'ai pas le pouvoir. Je suis comme ça. J'attends et j'écoute et je suis un peu impuissant. Voilà.
Vous êtes plutôt agi par les choses au départ.
Voilà.
Il est beaucoup question, justement, je le disais, d'un monde grec. Vous parliez de la recherche de l'équilibre comme un concept, justement, appartenant à ce monde-là. On va parler peut-être de vos recherches ou de vos lectures ou de vos intérêts, Fabrizio Dori. Mais avant cela, on va écouter le grand historien Jean-Pierre Vernant, en 1994, parler du monde grec qu'il aimait tant.
Pour dire qu'un homme est moralement bon, et quand je dis moralement, déjà, je tire. On dit kalos kagatos, bon et bon. Bon et bon. C'est une seule chose. Ça veut dire que dans la prestance d'un individu, dans son élégance, dans ses mouvements, dans toutes ses façons d'être, d'aborder autrui, de parler, ses intonations, dans son style d'existence, dans sa forme d'apparaître, on voit sa qualité. Sa qualité qui est à la fois esthétique, morale et personnelle. Donc il y a chez les Grecs une espèce d'accent mis sur la luminosité de certains êtres. Et là encore, il y a un mot qu'il faut prendre en compte, et c'est le mot charis. que nous traduisons par charme. Charis ou la grâce. La charis aussi, dans la vie sociale, c'est celle qui surgit dans le festin commun, dans la fête. C'est l'atmosphère de la fête. Et à ce moment-là, les dieux rayonnent de luminosité. Quand on crée Pandora, par exemple, Aphrodite verse sur Pandora la charis, et en même temps, elle met sur elle des bijoux scintillants, d'où la charis émane. C'est parce que, d'une certaine façon, elle reflète quoi ? La splendeur divine, le rayonnement de l'existence divine.
Quelle joie d'entendre cet homme et d'entendre sa propre joie à parler de ce monde grec, de cette pensée grecque, Jean-Pierre Vernant, à l'instant, donc en 1994, qui s'arrête pour faire surgir de sa propre pensée le mot « luminosité ». Fabrizio Doris, c'est peut-être là-dessus qu'on voulait d'abord vous arrêter, sur la manière dont les êtres que vous peignez, que vous dessinez, ont leur propre luminescence, leur propre luminosité, qui a à voir avec certainement leur divinité ou leur lien avec les enfers, avec le divin. Vous, quel a été votre intérêt pour ce monde-là? Quelles ont été vos lectures pour construire cette bande dessinée qui fait beaucoup appel à cet imaginaire?
C'est un peu comme quand on était en train de parler des marges. Et la culture occidentale, elle a deux racines, celle grecque et celle chrétienne. Mais il faut dire que la racine qui a gagné, on peut dire, son combat culturel, c'est celle de la chrétienté. Donc toute cette culture de la grécité, elle est un peu aux marges. Elle est à nous, mais elle est pas au centre, elle est aux marges. Un peu comme mes personnages dans la géographie qu'on avait avant évoqué. Et des fois, dans l'histoire, il y a eu des moments où on est allé regarder la Grèce. On peut parler de la Renaissance, mais aussi on peut parler dans le nord d'Europe. Beaucoup, ils ont regardé dans le 1800, dans cette époque-là.
Et d'un point de vue esthétique, vous voulez dire?
Oui, oui. Mais aussi des histoires, même morales. Si on pense à la naissance de la tragédie de Nietzsche, ou si on pense à Hölderlin, qui regardait à ce passé avec de la nostalgie.
Donc tout autant du point de vue de la philosophie, de la littérature.
Voilà. Et il y a une chose que c'est vraiment, selon moi, ce que ça divise le monde chrétien dans le monde des Grecs. C'est que pour les Grecs, l'homme, il meurt. Pour les chrétiens, non. Parce que l'homme, il est immortel. Pour les Grecs, et là, c'est la tragédie, il y a les immortels qui sont les dieux, mais il y a les hommes qui sont les mortels, qu'on appelait toujours mortels. Non, il y avait des mots grecs pour l'appeler, brotos, comme ça, mais ça signifie tous les fois celui qui va mourir. Donc, dans la Grèce, il y a l'idée de la limite, de la fin et de la mort. Et ça change un peu tout dans la façon d'affronter la vie et dans la façon de penser aussi. Dans la chrétienté, on n'a pas le limite. Dans la Grèce, oui. Et moi, je trouve que cette idée du limite, c'est dans ce moment-là historique, je pense, c'est très fort, très, très important.
Quand vous dites dans ce moment historique, dans le moment dans lequel nous vivons,
oui.
D'aller rechercher justement cette pensée qui n'élude jamais la mort. Mais en même temps, c'est étonnant de vous entendre dire ça, Fabrizio Doris, parce que c'est précisément un dieu que vous mettez en route. Celui qui va vivre une forme d'odyssée, pareil à Ulysse en n'étant pas Ulysse, n'est pas un homme, lui n'est pas mortel. Il va aller trouver Hadès, il va aller trouver les enfers, mais lui n'a pas affaire avec la mort. En revanche, il a un drôle de compagnon, un vieux professeur qui, lui, peut-être a un rapport différent avec la mort. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce personnage?
Oui, on a deux personnages qui sont deux humains qui vont s'accompagner à Eustis. On a Leandros, qui est un fantôme, c'était un homme, c'était un héros, ou quand même. Son destin, ça devait être celui-là, d'être un héros. Il suivait la philosophie aristocratique de la Grèce archaïque, voilà. Il cherchait la belle mort en bataille. Et après, on a le professeur, qui c'est un petit bonhomme.
Hyper content de partir.
Oui, hyper content de partir. Oui, c'est un peu le côté humain. C'est lui, Ulysse, parce que c'est lui qui a l'envie de partir, il a la curiosité de voir ce qu'il y a dans ce monde. Eustis, il part, mais il part parce que il doit le faire, parce que il a besoin de le faire pour résoudre ses problèmes, voilà. Et le professeur, il part juste pour, parce qu'il aime l'aventure, il a jamais vécu l'aventure dans sa vie. Il a étudié tout le temps et maintenant, proche de sa mort, parce qu'il est quand même, il est âgé, il trouve cette occasion de vivre une grande aventure, voilà.
Et notamment de vivre quelque chose qui a à voir avec le désir. Le dieu vagabond, cette bande dessinée, elle se situe très souvent à la croisée des chemins. Tout à l'heure, je lisais une forme de scène d'ouverture dans la chambre à coucher où une jeune femme dit à Eustis, je sais pas ce qu'il me faut, je sais pas quelle histoire il me faut, je crois que j'ai besoin d'un miracle. Eustis, lui non plus, il sait pas exactement ce qu'il lui faut. Il attend que Hécate le mette face à son propre destin et face à sa mission d'aller chercher le monde perdu. Et puis, il y a ce fantôme. En tout cas, chacun se retrouve face à ce qu'il doit faire, à ce qu'il doit embrasser comme chemin, comme si c'était une sorte de thématique souterraine de cette bande dessinée.
Ben oui, il y a tout un côté, disons, existentiel dans cette BD. Déjà, c'est un voyage, on a dit, c'est une odyssée au marge d'une cité, mais si on sait la lire, c'est aussi le parcours d'une vie, parce que dans cette odyssée, la fin, c'est la rencontre avec Hadès, donc c'est la mort, et au milieu, on a deux ou trois rencontres avec d'autres divinités, et c'est avec la guerre, avec l'amour, donc le dieu de la guerre, la déesse de l'amour. Donc c'est anche la structure de le récit, c'est dans quelque sorte la structure d'une vie, parce que ce qu'il y a dans notre vie, c'est les conflits, non, et l'amour, normalement, et la mort, voilà. Donc c'est très simple d'un côté, non?
Est-ce que vous avez fait avec vos connaissances existantes, ou est-ce que vous avez eu besoin, pour écrire Le Dieu Vagabond, de vous replonger dans des écrits mythologiques, dans des textes plus philosophiques, Fabrizio Dori? Est-ce que ça vous a accompagné, ces lectures?
Eh bien, déjà, tout ça, comment on dit, ça naît parce que j'étais déjà dans cette mood, disons, dans cette lecture. C'est des choses que quand même je...
Bon, fréquente.
Oui, voilà. Et oui, mais dans un second moment, j'ai dû, oui, aller regarder des choses plus spécifiques pour construire l'histoire, des épisodes, pour aller chercher des divinités que ça pouvait me servir, voilà, comme ça, pour des détails, voilà.
Et construire un monde. À ce propos, on va entendre l'auteur de BD Mézières parler du rapport que sa propre bande dessinée entretient avec le réel.
Le dessin de bande dessinée fait complètement fi de la réalité. Une réalité même, si elle est à la conquête de l'espace, par exemple, bon, aucun des dessinateurs, je crois, surtout pas autour de cette table, se préoccupe de ce qui se passe à la NASA ou ce qui se passerait en Russie, par exemple, parce qu'on est beaucoup plus loin que ça. Nous, les galaxies, on les a déjà conquises depuis très longtemps. Et ce qui compte, c'est l'aspect graphique. C'est au fond ce que notre dessin peut exprimer. Si, ça marche, comment ça marche, ces fusées-là, on n'en a rien à foutre, quoi. Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui compte, c'est l'impact de l'image. Et si cette image est belle, si elle est puissante, si elle, si elle fait rêver, si elle entraîne le lecteur dans un monde complètement fou, mais l'entraîner justement avec une logique parfaite, il faudrait arriver justement, et ce qu'on essaye, on récit plus ou moins, mais je crois qu'on essaye tous, c'est d'avoir une espèce de logique interne qui soit très précise, que l'univers décrit soit cohérent en lui-même, aussi fou soit-il. On peut inventer des histoires abracadabrantes, des choses complètement mises sur papier en disant ça, c'est ça et ça, c'est aberrant.
Avec des points de repère, c'est ça.
Mais des points de repère. Mais si notre, la magie du dessin et de la narration est d'emmener son lecteur à travers ce labyrinthe d'aventure et de ne pas lui lâcher la main.
1980, dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture, l'auteur de BD Mézières qui dit finalement que... son dessin ou l'art de la bande dessinée n'a que faire de la réalité. Ce qui est le plus important, c'est de créer une forme de cohérence magique et de ne jamais lâcher la main de la lectrice ou du lecteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fabrizio Dori? Comment fonctionne votre propre façon de créer justement ce monde à l'intérieur de la bande dessinée?
Oui, la cohérence, c'est... il faut l'avoir, ça c'est normal, parce que c'est un peu ce que je disais avant, si on se laisse aller à le chaos, on n'arrive pas à donner au lecteur quelque chose, une expérience qui peut être vécue en manière importante, je pense, en manière avec le cœur, voilà. Et oui, donc il faut construire cette cohérence, c'est l'équilibre que je cherche entre les visions, entre la réalité, la fantaisie, le rêve, la mort. Il y a dans cette BD, il y a beaucoup de choses qui vivent à côté l'un de l'autre. Et j'espère avec un certain équilibre, voilà.
Et pourtant, c'est une cohérence qui n'a pas peur de se nourrir d'hétérogénéité, c'est-à-dire que je le disais en introduction, c'est un monde dont on sent qu'il est plein de plein d'autres mondes. Et on y voit, à la faveur de sa propre culture visuelle, des références explicites à Gustav Klimt, des références plus ou moins explicite à un certain cinéma, des références à Van Gogh, avec des tournesols, avec des chants. Enfin, on a l'impression que c'est aussi pour vous une joie de faire de ce monde cohérent un monde multiple. De quoi est-ce qu'il est nourri de manière consciente, ce monde-là?
Oui, c'est comme ça. Moi, je suis gourmand. Voilà, c'est un peu ça. Si je mets... j'ai une envie... vers le monde, non, et donc je mets tout ce que je peux dans la BD, voilà, et en ça je suis aussi un peu post-moderne, on peut dire, hein. Je travaille un peu comme Tarantino, je mélange beaucoup de choses, et donc oui, il y a vraiment beaucoup de au niveau graphique, oui, il y a un peu toute l'histoire de l'art du 900 jusqu'à la pop art, à peu près.
Et de manière parfois très explicite, sous la forme de gros clins d'œil.
Oui. Mais ils sont même pas des clins d'œil dans mon idée. Je disais un peu comme Tarantino, parce que si moi j'ai besoin de faire une nature brûlante, alors je pense à Van Gogh. Pour moi, c'est automatique. En ça, je suis un peu postmoderne parce que j'ai la référence. Pour moi, c'est le monde, voilà, mental et le monde réel. Ils se croisent dans ma façon de penser avant.
Mais c'est comme une boîte à outils, cette histoire de l'art. Vous dites, ok, j'ai besoin d'une nature brûlante. Alors, s'il y a Van Gogh qui existe, pourquoi ne pas citer clairement Van Gogh, en fait, le citer d'une manière plastique?
Oui. Et comme quand j'affronte la guerre, j'utilise Autodix. C'est quand on est dans la fête foraine, j'utilise un peu la pop art, Murakami. Voilà, c'est ma façon de... J'ai toujours fait comme ça aussi dans mes autres BD. Là, c'est encore plus puissant, plus explicite. Je regarde aussi beaucoup la bande dessinée de Les Origines, que j'aime beaucoup. Il y a des, là aussi, il y a ce qu'on peut appeler des clins d'œil, quand même, il y a des références qui, dans ce sens-là. Il y a du cinéma. Et au niveau d'écriture, il y a beaucoup de choses là aussi. Il y a des idées qui me viennent de Hölderlin, des idées que, il y a l'Odyssée, que j'ai utilisé un peu comme, voilà, comme grande référence pour cette BD. Et oui, c'est comme ça, moi, la construction de monde, mais c'est le regard, moi, que aussi j'ai sur le monde, c'est quand même, il a un deuxième degré, je sais pas comment dire, c'est pas...
Vous vivez comme augmenté de tout ce que vous avez vu, quoi.
Ouais,
oui. Donc c'est pas tant votre manière de faire de la bande dessinée que votre manière de traverser l'existence.
Oui, de penser, parce que si moi je pense bon à la guerre, je pense à Otedix, bon, c'est comme ça. Si je dois penser à quelque chose de visuel.
Y compris lorsque, par exemple, vous vous confrontez à des images très contemporaines. Comme, parce que tout à l'heure, on disait, on a besoin, dans le monde que nous traversons, nous avons besoin de nous rapprocher de la pensée de la limite proposée par le monde grec. Et on sent bien que pour vous, c'est aussi une manière de réfléchir à votre propre époque, au XXIe siècle, tout ça, Fabrizio Dori. Donc quand vous pensez guerre, y compris guerre contemporaine, vous pensez Otedix.
Ben non, j'y pense... au dehors de la représentation, ben non... Ou peut-être oui, parce qu'il y a, des dessins d'Otedix qui représentent les soldats mutilés après la Première Guerre mondiale. Et ces dessins-là, ils sont en effet très, très forts. Et, donc oui.
Ça vous arrive qu'ils se superposent avec des images d'Internet ou de la télévision, par exemple?
Oui, oui, quand même, le lien, il est possible. Et, oui, il est possible de le faire, oui.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Fabrizio Dori.
premier art, c'est l'exploration du médium. On a une bande dessinée naissante, une bande dessinée dont les règles ne sont pas fixées. Chez Töpffer, c'était des bandes, une seule bande de dessins noirs et blancs courant tout au long du livre. Chez McKay, c'est vraiment l'exploration des possibilités de la page. Je me souviens d'une page admirable avec un éléphant. Et alors on voit cet éléphant s'avancer, sa trompe grandir et occuper de plus en plus ses cases verticales. Et puis Nemo et la princesse s'asseyent sur un petit trône qui a été placé sur la trompe de l'éléphant et remontent en haut de la page. Et on sent vraiment qu'il y a une compréhension de l'architecture de la bande dessinée avec une beauté soulignée par les couleurs qui fait qu'on voit tout de suite quelque chose. Je me souviens d'un... un mot magnifique d'un très très grand auteur de bande dessinée d'aujourd'hui, Art Spiegelman, qui me disait « Winsor McKay est un génie de la bande dessinée malgré son talent du dessin ». Ça pourrait sembler paradoxal, mais ce qu'il voulait dire, c'est que, enfin je crois, pour ce que j'en ai compris, c'est que quelquefois, un très grand dessinateur est un virtuose et transforme chaque case en illustration. Alors que McKay n'oublie jamais que chaque case est une pièce d'un ensemble et qu'il faut parfois être discret. Qu'il faut aussi jouer avec le texte, jouer avec la narration, l'enchaînement, la fluidité de la lecture, et donc devenir un génie de la bande dessinée, malgré son immense talent de dessinateur, en oubliant quelquefois la virtuosité au profit de quelque chose de plus important, une forme d'efficacité, de compréhension profonde de son médium. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand il aborde le dessin animé, il comprend tout de suite ce que le dessin animé peut faire.
C'est la voix de Benoît Peters dans l'émission Secret Professionnel en 2016, Fabrizio Dori évoquant Winston McKay et son art de la compréhension du médium. Peut-être vous faire réagir à cette idée principale qui voudrait qu'il s'agit de se méfier de son grand savoir-faire pour se mettre au service de la bande dessinée et de son mouvement. Est-ce que c'est parfois quelque chose de difficile? Est-ce que parfois on est tenté de faire de la case un endroit précieux, super bien réussi, qui se tient pour lui-même, et d'en oublier la construction générale?
Ça peut arriver. Moi, j'espère... Moi, je pense de ne pas avoir cette tentation. Je l'espère. Mais je l'ai pas parce que j'ai pas la, je sais pas comment dire, mais j'ai pas le mythe de le beau dessin. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Même. Pour moi, c'est ce qui me bouge, c'est des fois la puissance d'une image. Donc, les fois que dans la BD j'ouvre une page avec un gros dessin, c'est parce que c'est un moment fort.
Narration en a besoin.
Oui, on a besoin, et ça doit être une image lumineuse, ça doit être quelque chose de un point dans un discours, mais je l'utilise pas toujours. Quand c'est nécessaire, voilà, oui, parce que c'est quand même la narration, c'est une structure, oui, c'est une architecture, mais c'est aussi une musique. Elle doit marcher dans le temps et ça doit bien fonctionner. Je pense d'avoir ça en tête assez bien, voilà. C'est vrai que moi, mes dessins sont assez bien travaillé, longuement travaillé, il n'y a pas beaucoup de synthèse, ça c'est vrai, mais je pense d'avoir là aussi trouvé un équilibre, je l'espère, d'avoir trouvé un équilibre entre la beauté, on peut dire, de le dessin et quand même la fonctionnalité, la musicalité, et la narration, voilà.
D'ailleurs, vous parlez tant en termes de rythmique, de musicalité, qu'en termes d'architecture. C'est aussi le mot qu'employait Benoît Peters à propos du savoir-faire de Winston McKay. Quand on voit la manière dont vous organisez vos pages, c'est-à-dire en fait une organisation fluctuante, vos cases peuvent avoir des tailles différentes, d'une double page à l'autre, parfois plus de cases, même si vous les utilisez beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est senti, qui est complètement intuitif, Fabrizio Dori. Comment on répartit les cases sur une page, avec quelle taille, avec quelle rythmique. C'est vraiment comme prendre un instrument et décider qu'on va jouer de telle ou telle manière.
C'est l'effet final qu'on veut obtenir. Voilà. Si on a un moment de... Voilà, de... Il y a des pages au commencement où Eustis il est seul, il pleut, c'est un moment calme, c'est un moment un peu malinconique, c'est un moment un peu comme ça, qui ne bouge pas.
Là, il vaut mieux avoir pas beaucoup de cases.
Voilà, là on bouge tout doucement avec des cases qui se décalent à petit, comme ça. Et après, si on a un moment d'action, là, les cases explosent. On peut avoir beaucoup de cases, on peut jouer avec des directions dans l'espace. Donc, c'est vraiment selon l'effet qu'on veut donner. En fait, moi, je travaille en imaginant... moi, je vis en première personne toutes les scènes. Et après l'avoir vécu, je veux redonner le sentiment, la forme de cette scène. Voilà.
On entendait aussi dans la voix de Benoît Peters l'importance de la connaissance du médium qui passe par la lecture de ses pairs, la lecture des auteurs de BD, des autrices de BD. Est-ce que c'est aussi une activité importante pour vous, Fabrizio Dori, de lire ce que font et ce que dessinent les autres?
Oui, en fait, je l'ai fait beaucoup avant, quand j'étais que lecteur. Je le faisais en manière, j'avais pas le but
de dessiner vous-même.
Oui, voilà, de faire moi-même la bande dessinée, mais ça a été une formation involontaire, en quelque façon. Et maintenant, je lis beaucoup moins. Mais je cherche quand même toujours s'il y a quelque chose qui m'appelle, s'il y a quelque chose que je trouve que ça peut être intéressant, je vais le prendre, je vais le lire, oui.
Plutôt dans des choses nouvelles pour voir comment est-ce que d'autres personnes s'emparent de ce médium ou plutôt au contraire dans l'histoire de la bande dessinée.
L'histoire de la bande dessinée, je l'ai un peu déjà regardée. Mais quand même, oui, là aussi, parce que il faut dire qu'en effet, quand un médium, il est jeune, c'est le moment où en réalité, il expérimente le plus. Donc, c'est vrai que, en regardant la bande dessinée des origines, il y a beaucoup de choses vraiment forte, qu'en quelque sorte de manière on s'est, je sais pas, oublié, je sais pas. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des auteurs contemporains, je pense Chris Ware, non, qui a réinventé la bande dessinée. Donc on peut regarder, oui, un peu de tous les parts, on va trouver pas mal de choses, voilà.
On va repartir du côté du monde grec avec Marcel Détienne pour s'attarder un peu plus sur la figure du satyre, finalement, dont vous avez fait votre héros.
Le satyre, c'est la bestialisation du corps humain, avec des oreilles comme ça, pointues, une petite queue derrière, puis des sabots, enfin, bon, ça, c'est un petit peu... Il y a toutes sortes de figurations, mais essentiellement, c'est surtout l'érection. C'est le sexe démesuré, toutes sortes de manipulations érotico-maniaques. Ils copulent entre eux, ils montent sur des ânes qui sont eux-mêmes en érection. Enfin, il y a une débauche de... Oui, de posture, de figure de la sexualité. Et Dionysos au milieu, en longue robe, et en portant la barbe, en prenant celui-là, parce qu'il y a un autre qui est jeune et qui ne porte pas la longue robe. Mais toujours, c'est un dieu qui, lui, est parfaitement, en quelque sorte, extérieur à ces façons débridées, cette sexualité qui en rajoute. Ou bien il est ce dieu, comme cela, très hiératique, et qui souvent tient donc un vase à boire, ou qui porte comme cela de la vigne, ou une panthère sur le bras. Enfin bon. Et il n'est jamais représenté donc en érection. Et par ailleurs, il est le dieu à l'occasion des Dionysies, qui sont donc les fêtes de Dionysos dans le monde athénien et un peu partout ensuite, eh bien, il est le dieu que l'on promène sous la forme d'un immense phallus.
En 1989, Marcel Détienne, dans les entretiens à voix nue, parle de la figure des satyres et de leur lien avec Dionysos, mais aussi de leur sexe, de l'érection, de la bestialisation du corps masculin. Et finalement, c'est pas tant un choix que vous avez fait graphiquement dans Le Dieu Vagabond, Fabrizio Dori, au départ. Oui, c'est vaguement un dieu séducteur. On a l'impression que oui, peut-être, il collectionne les femmes, mais pas plus que ça, comme si c'était pas vraiment ça qui vous intéressait dans la figure mythologique du satyre.
Oui, oui, oui. En effet, c'est comme ça. Et déjà pour sa représentation graphique, même dans le passé, dans l'époque des mythes, j'ai choisi les représentations du satyre plus tard dans l'art grec, où il n'y a plus les poils, c'est des jeunes garçons avec des petites cornes dans la fin.
C'est plus humanisé.
Oui,
quoi,
c'est plus humanisé.
Moins bestial.
Voilà, c'est moins bestial. Et oui, ce côté-là, ben moi, ce que oui, il est présent, mais c'est en quelque façon, c'est plus abstrait. C'est devenu quelque chose d'un peu plus abstrait. C'est pour moi un peu Dionysos, on revient toujours là, c'est toujours l'inconscient, la dimension inconsciente de l'homme, c'est la dimension même on peut dire pré-ling, avant de le langage.
Pulsionnel presque.
Oui, oui, pulsionnel, mais même originel. C'est l'homme quand il n'était pas homme. Donc oui, c'est là qu'il y a la bête. C'est l'homme qu'il n'est pas homme parce qu'il n'est pas divisé de le monde, du langage. C'est comme une condition de l'homme avant le langage. Et donc, c'est le paradis perdu. Et dans le même temps, c'est plus l'homme. Parce que, avant le langage, on a la bête, on a l'homme bête. Et c'est peut-être le paradis perdu, mais c'est là un peu la tragédie, moi je pense, où on a le paradis perdu, où on a le paradis, on ne peut pas voir l'homme. L'homme, on l'a quand on sort du paradis. Voilà. Ça ne peut pas coexister les deux choses. Voilà.
Et c'est pour ça que finalement, c'est une bande dessinée qui va doucement vers la mort, enfin qui va aussi longtemps que nécessite l'Odyssée, vers les enfers.
Oui, là, c'est un peu pour. L'idée, c'était celle de faire une BD qui, avec la forme d'une vie. Voilà. Alors on va vers la mort et on rencontre au milieu de, comme je disais avant, des choses comme l'amour, la guerre, voilà.
Et un peintre. Je voudrais qu'on termine par l'évocation justement de Vincent Van Gogh, puisque vous parliez de ce paradis perdu qui évoque l'homme avant le langage. On va entendre un extrait du Suicidé de la société de Antonin Artaud, qui évoque Van Gogh, et on reviendra sur ce dialogue que vous mettez en scène entre vos personnages principaux et Van Gogh lui-même.
Van Gogh n'est pas mort d'un état de délire propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème autour duquel, depuis les origines, se débat l'esprit inique de cette humanité, celui de la prédominance de la chair sur l'esprit, ou du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un et l'autre. Et où est dans ce délire la place du moi humain ? Van Gogh chercha le sien pendant toute sa vie, avec une énergie et une détermination étranges. Et il ne s'est pas suicidé dans un coup de folie, dans la transe de n'y pas parvenir. Mais au contraire, il venait d'y parvenir et de découvrir ce qu'il était et qui il était. Lorsque la conscience générale de la société, pour le punir de s'être arraché à elle, le suicida. Et cela se passait avec Van Gogh, comme cela se passe toujours d'habitude, à l'occasion d'une partouze, d'une messe, d'une absoute, ou de tel autre rite de consécration, de possession, de succubation ou d'incubation. Elle s'introduisit donc dans son corps, cette société absoute, consacrée, sanctifié et possédé. Effaça en lui la conscience surnaturelle qu'il venait de prendre est-elle une inondation de corbeaux noirs dans les fibres de son arbre interne, le submergea d'un dernier ressaut et, prenant sa place, le tua.
C'est la voix de la comédienne Christiane Tissot en 1973 qui lit ce texte d'Antonin Artaud. Le suicide est de la société, évoquant la figure de Van Gogh. Vous aussi, Fabrizio Dori, vous la mettez en scène, cette figure de Van Gogh, mais peut-être dans une ambiance plus bucolique. Votre personnage principal, Eustis, va à sa rencontre. Il est en train de peindre des champs. Que nous raconte cette discussion entre le mortel, précisément très mortel, Van Gogh, et votre personnage avec un brin de blé dans la bouche qui semble vanter les mérites de l'existence divine?
Et là, oui, c'est un peu la rencontre entre un homme qui est mystique, qui est très chrétien, parce que c'est un homme qui cherche... un homme qui n'a pas de limite. Van Gogh, il est à la recherche de la lumière, il veut la conquérir, il veut mettre la lumière dans ses tableaux, il est obsédé par cette lumière, et il l'appelle la haute note jaune. C'est un peu l'histoire de Icarus, qui veut se... Et il va vers le soleil, il s'approche trop et il va se brûler. Et c'est un peu, là j'ai vu un peu l'histoire de Van Gogh, voilà, c'est l'homme qui n'a pas de limite, qui cherche, il cherche le paradis perdu, il cherche le monde avant le langage, parce que c'est ça en fait qu'il cherche. Mais c'est un monde que l'homme ne peut pas habiter, donc il va devenir fou, voilà. Ça c'est un peu... C'est un peu l'histoire. Il y a toujours les thématiques un peu de le limite, de le paradis perdu.
De la marginalité, là aussi, d'une certaine manière. Aussi, en tout cas, c'est une forme de rapport à la norme. Mais ce que lui répond Eustis, le personnage principal de votre bande dessinée, Fabrizio Dori, c'est qu'en fait, c'est plus cool d'être un dieu. C'est plus tranquille. Ah, vous, les mortels, vous êtes beaucoup trop tourmentés. Vous, les peintres, c'est beaucoup trop difficile, votre existence. Moi, je me prélasse.
Ça veut dire qu'à choisir, vous préféreriez être un dieu vagabond qu'un auteur de bande dessinée qui essaye de capter la lumière?
Bah, je sais pas. Ça, je sais pas, mais quand même, c'est vrai que les dieux, dans beaucoup de histoires de limites, ils regardent les hommes avec un peu de. Voilà, les pauvres. La condition du mortel, c'est vraiment quelque chose de pas bien, voilà. Et ça existe, oui. Et pour un dieu, peut-être, c'est vrai. Bah, pour un homme, moi, je suis pour la limite. Alors, ça va bien être un homme, et voilà.
Vous êtes content d'être mortel. Ça donne des bonnes fêtes.
Oui, oui.
Voilà, ça permet de faire des grandes bonnes fêtes. Merci beaucoup, Fabrizio Dori. Le Dieu Vagabond est publié aux éditions Sarbacane. Il est en librairie et vous serez, vous, au Salon du Livre à Caen tout le week-end. Merci à vous.
Merci.
Ce soir, c'était Emmanuel Morse d'un camp à la réalisation Lise-Marie Barry. J'envoie un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Valentin Rémy qui m'aident à penser et préparer cette émission. Tous les jours, j'envoie aussi tous nos auditrices et nos auditeurs vers franceculture.fr. On y trouvera la référence des archives, des musiques, des livres et des œuvres d'art que l'on traite et plein de liens, notamment celui qui permet de s'abonner au podcast pour écouter l'émission quand on veut. On se dit à lundi et on se dit que tout de suite c'est le journal sur France Culture. Très belle soirée, très bon week-end. 21.